Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître de Pierre. On continue notre méditation de cette épître. 1 Pierre. Chapitre 1. Donc 1 Pierre, chapitre 1. Alors nous avions considéré le fait que l'apôtre Pierre écrit cette lettre, comme il est dit au début, à des personnes qui sont dispersées, étrangers, dispersées dans le pont, la Galatie, la Cappadoce. On a un peu d'écho dans le micro, on peut baisser un tout petit peu, s'il vous plaît, parce que ça, c'est... Merci beaucoup. La Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et on avait dit que c'était des personnes qui souffrent, hein. Quand on lit l'épître, on voit que ce sont des personnes qui souffrent, qui ont des difficultés, et il écrit, et il commence par leur exposer ce qu'ils sont, des chrétiens, et vous rappelez-vous de cela, hein, des élus selon la préscience de Dieu, le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et puis, il salue que la grâce et la paix vous soient multipliées. On avait considéré le fait que les chrétiens, ces chrétiens-là, sont choisis, mais aussi avaient un héritage qui leur était réservé dans les cieux. L'héritage, ils étaient gardés pour l'héritage, l'héritage était gardé pour eux, c'est ce qu'on avait considéré. Donc, des versets 3 jusqu'au verset 5. Ensuite, il est question de la joie qu'ils ont, hein, de la joie qu'ils ont, de ce salut qui sera révélé bientôt, même s'il faut, pour le temps présent, être dans la difficulté. D'ailleurs, que cette épreuve qu'ils avaient, eh bien, était précieuse, même plus précieuse que l'or, parce que ça aura pour résultat, nous dit l'apôtre au verset 7, à la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ va paraître. Et puis, il parle de cet amour, bien sûr, que les croyants ont pour Christ sans le voir et la foi qu'ils continuent à exprimer, même en ne le voyant pas. Et puis, on avait considéré le fait que Pierre va faire prendre à ces chrétiens conscience de la valeur du salut qu'ils ont en Jésus-Christ en montrant que les racines même sont plongées bien, bien loin dans le passé. Hein, et que les prophètes et les anges déjà désirent plonger leur regard. Les prophètes ont témoigné de Christ et de ses souffrances. Et qu'ils étaient les bénéficiaires d'un salut qui a une grande valeur et qui constitue l'objet de grandes investigations de la part des prophètes et aussi des anges. Et puis on arrive au verset 13 où il commence une série d'exhortations. Tout ça, c'était, on pourrait dire, de l'exposition, il expose les vérités de l'Évangile, les concernant la valeur du salut qu'ils ont, l'espérance qu'ils ont en Jésus-Christ. Et puis au verset 13, il dit « c'est pourquoi ». Donc, c'est-à-dire en considérant toutes ces choses que vous avez, eh bien voilà comment vous devez agir. Et on avait considéré ce thème de la sainteté, hein, saigner les reins de votre entendement. Et nous allons lire donc ces passages jusqu'au verset 25, parce que toute cette section, aussi après au chapitre 2, est une section éminemment pratique où l'apôtre Pierre exhorte les chrétiens, ces chrétiens-là, et puis nous aussi bien sûr, à avoir une certaine conduite, eut égard au salut dont ils sont bénéficiaires. Donc verset 13 jusqu'au verset 25 sera notre lecture, mais nous allons concentrer notre pensée aujourd'hui sur le verset 22. 1 Pierre 1, verset 13. « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, et nous te demandons que tu illumines nos cœurs par ton esprit, que tu ouvres notre intelligence pour que nous puissions saisir les choses qui viennent de toi, et que tu soumettes notre cœur afin que nous obéissions à ta parole pour la gloire de ton nom. Amen. Donc le verset 22 et 23 disent « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Si on vous demandait de définir ce que c'est que le salut ou l'évangile, comment est-ce que vous définiriez l'évangile ? On peut avoir des définitions particulières ici. Peut-être vous direz un certain nombre de choses. Peut-être vous parlerez de la mort de Christ à la croix du calvaire et de tous les bienfaits que l'on a en Jésus-Christ ici. Il est intéressant de voir que Pierre n'a fait que présenter depuis le début le salut sous différents axes à ses croyants. Et même quand il commence ici avec une série d'exhortations pratiques, il a à chaque fois comme point de départ le salut. Au verset 13 jusqu'au verset 18, il parle d'une conduite saine, et puis il dit au verset 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais par le précieux sang de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Et donc, il rappelle encore là un élément du salut. Dans le verset 22 qui nous intéresse, il parle encore de salut, mais d'une manière particulière. Il parle du salut et de la conséquence que ce salut doit avoir dans la vie des croyants. Et c'est ce qu'on trouve au verset 22. Il dit « Ayant purifié vos âmes, Ça, c'est le salut, ça. En obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » C'est ça l'exhortation qu'il a pour ses croyants. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et c'est l'exhortation que Dieu a pour nous aussi ce matin. Ayant purifié vos âmes, donc il parle à des croyants, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il parle, on l'a dit, à des chrétiens, puisque au verset 23, il dit bien, il souligne bien, puisque vous avez été, quoi ? Régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Notons donc que c'est un commandement qu'il donne ici, à des chrétiens. Et c'est un commandement qu'ils doivent mettre en pratique à ces chrétiens qui sont dispersés, qui ne sont pas considérés, qui sont étrangers, qui souffrent de multiples maux. L'exhortation de Pierre pour eux à ce point-là est qu'ils doivent s'aimer ardemment de tous les uns les autres et de tout leur cœur. Il ne demande pas ici d'aimer tous les hommes. Il ne dit pas aimer tous les gens que vous rencontrez. Ça, l'Évangile le dit. N'est-ce pas que nous devons aimer, nous aimer les uns les autres et qu'on doit même aimer nos ennemis. Mais là, il n'est pas question de cela. Il est question de l'amour que doivent avoir les chrétiens entre eux, les uns envers les autres. C'est un amour spécifique, et c'est le mot ici, c'est l'amour agapé, un amour qui implique la volonté. Ce n'est pas juste un sentiment d'amour, quoi, hein, comme on peut avoir, une affection que l'on peut avoir. C'est vraiment un amour volontaire et qui est motivé par le fait d'avoir été régénéré. C'est ça dont il est question ici. Et donc le titre de notre méditation ce matin, c'est le devoir d'un amour sincère pour les frères. Le devoir d'un amour sincère pour les frères. Premièrement, nous voulons considérer ceci, que l'amour fraternel sincère nécessite une œuvre intérieure divine. L'amour fraternel sincère nécessite une œuvre intérieure divine. L'apôtre Pierre dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. » Autrement dit, il relie le fait d'avoir un amour fraternel sincère au fait d'avoir des âmes purifiées. La première chose que j'ai citée, l'amour fraternel sincère, n'est pas possible sans une âme purifiée. D'accord ? Donc, il faut que l'âme soit purifiée pour cela. Et donc, ici, la purification de l'âme est indispensable à toute manifestation d'amour. Le monde rêve de paix et d'amour, n'est-ce pas, hein ? Chaque jour qui passe. Mais il semble que, quand on regarde, on jette juste un coup d'œil, eh bien, il semble que l'insécurité et la haine de l'autre se manifestent toujours de plus en plus ouvertement. Il n'y a pas un jour qui passe maintenant, on a l'impression, sans qu'on entende des actes, soit d'incivilité, mais de haine, n'est-ce pas, de certains à l'égard d'autres personnes. Et on a fait beaucoup d'efforts pour améliorer les choses. On a versé beaucoup de sommes d'argent pour arranger extérieurement les choses, mais ces efforts consistent simplement à tenter de réparer par l'extérieur, n'est-ce pas ? Et les gens réclament toujours plus de moyens, plus de lois, n'est-ce pas ? Plus d'expérimentation. Mais le Saint-Esprit nous dit ici, par la bouche de l'apôtre Pierre, qu'il faut pour un amour sincère une âme purifiée. Il faut pour un amour sincère une âme purifiée. Rappelez-vous, lorsque l'apôtre Paul écrivait à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 5, il disait « Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. » Un amour venant d'un cœur pur. Il exhorte Timothée, à aimer l'assemblée, à régler les choses de l'assemblée, mais à avoir pour cette assemblée un amour, mais qui ne peut venir que d'un cœur purifié. Et donc il dit ici, Pierre, ayant purifié vos âmes pour avoir un amour fraternel sincère. Il ne saurait y avoir de manifestation d'amour sincère entre les croyants, d'accord, sans que leur âme soit purifiée, sans être vraiment croyant. Donc ce que Pierre dit ici, c'est que pour aimer de la sorte, il faut être un véritable chrétien. Et la sorte d'amour en question ici, c'est un amour, je l'ai dit tout à l'heure, qui implique vraiment cette volonté, pas un simple sentiment. Et cet amour ne se trouve pas dans l'homme naturel. On peut dire oui, mais il y a des gens qui, sans être enfants de Dieu, ils s'aiment véritablement. L'amour dont il est question ici est un amour qui ne peut se trouver dans l'homme naturel. C'est l'Écriture même qui le dit. Jean 5, verset 42, Jésus dit ceci, il dit à ses interlocuteurs, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » C'est Jésus qui dit ça. « Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Le cœur non régénéré, non purifié, ne peut avoir cet amour. Il est donc impossible d'avoir un tel amour sans une âme purifiée. Et ce dont le monde a besoin, en premier lieu, ce n'est pas la paix et l'amour, mais un cœur régénéré, une âme purifiée. Il n'a pas besoin d'une amélioration extérieure, il a besoin d'une conversion intérieure. Et on voit que la purification ici, c'est quelque chose qui consiste, hein, le mot, c'est quelque chose qui consiste à extraire et à nettoyer, à laver, à purifier, et puis à rendre capable de. Hein. Donc il dit, il faut purifier, il faut extraire, il faut extirper tout ce qu'il y a de mauvais pour rendre l'âme après capable d'accomplir la volonté de Dieu. Et donc le salut ici, de manière sous-entendue, dans ce que dit l'apôtre Pierre, consiste en une œuvre de purification. Ça n'existe pas, extirpe, comment vous voulez dire le participe, hein, d'extirper, une œuvre qui consiste à extirper, à extraire le mal, le péché, et puis à disposer le cœur de façon à ce qu'il puisse obéir à la volonté de Dieu. C'est exactement ce que Ézéchiel dit lorsqu'il parle en projection de la nouvelle alliance, de ce que Dieu va faire. Alors écoutez Ézéchiel chapitre 36 et à partir du verset 24. Ézéchiel chapitre 36 et à partir du verset 24. Ézéchiel 36, verset 24. Vérifie que je ne me suis pas trompé dans la référence. Oui. Ézéchiel 36. Et Dieu dit par la bouche du prophète Ézéchiel, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Vous voyez, une œuvre de purification, extraire, nettoyer, laver ce qu'il y a. Et puis ensuite, il dit, « Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » On peut dire, ça, c'est une partie de l'œuvre de purification. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste enlever pour que ça soit tout propre, mais c'est enlever et rendre capable après de faire quelque chose. Regardez la suite du verset, il dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est ce que Pierre dit en substance. Il dit « Ayant purifié vos âmes pour avoir un amour sincère. » Ce n'est pas simplement pour être propre, mais c'est pour être propre spirituellement et capable de, maintenant, aimer véritablement. Alors, aimez-vous. D'accord ? Puisque c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'il est en train de dire ici en substance. Donc la purification, on le voit ici, puis la nouvelle capacité, d'après Ézéchiel, à observer la loi de Dieu. C'est une transplantation cardiaque. Hein, un peu. C'est comme quelqu'un qui a un cœur qui est en mauvais état, qui ne peut rien faire, il ne peut même pas faire un petit peu de marche, courir, etc. Il est essoufflé, il ne peut rien faire avec ce cœur, donc on va enlever ce cœur, on va lui donner un cœur, mais pas simplement juste pour lui donner un nouveau cœur, mais un cœur qui soit capable maintenant d'accomplir ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant avec le cœur malade. Et Dieu dit ici, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. C'était dur comme du bois, il n'y a rien, il n'est pas malléable, il n'est pas sensible à la parole de Dieu. Et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire mou, qui sera malléable, souple, qui va pouvoir recevoir les choses de la parole de Dieu. Et aussi, je ferai en sorte que vous puissiez les mettre en pratique. Donc voilà, cette purification, on le voit, est indispensable à l'amour. Il est impossible, selon ce que Pierre dit ici, d'aimer sans une véritable purification. Mais la purification de l'âme est une œuvre divine. On pourrait se tromper parce que Pierre dit, ayant purifié vos âmes. On aurait pu penser que c'est les chrétiens ont eux-mêmes purifié leur âme. C'est eux qui ont fait ça, donc ils ont trouvé de la potasse quelque part, ils ont frotté, et puis c'est devenu tout propre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. Cela suppose ici que c'est Dieu qui est à l'œuvre et que la purification de l'âme, puisqu'il est question de la régénération après, puisque vous avez été régénéré, est une œuvre divine que Dieu lui-même accomplit. Alors, il est vrai qu'on trouve dans l'Écriture des appels à se purifier. Par exemple, l'apôtre Jacques dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Mais chaque fois que l'Écriture nous donne un commandement, ça ne veut pas dire que nous soyons naturellement capables de l'accomplir. Il faut l'Esprit de Dieu en nous pour nous rendre capables de l'accomplir. Néanmoins, nous avons la responsabilité à l'égard du commandement. L'Écriture dit par exemple, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Qui peut dire qu'il a cette capacité naturellement à aimer Dieu? La Bible dit que nul ne cherche Dieu, que nous sommes des ennemis de Dieu par nature. Et donc on n'a pas cette capacité à aimer Dieu. Mais une fois que le cœur est transformé, donc ça c'est cette œuvre de purification, eh bien Dieu nous rend capables d'accomplir cela. Donc, la purification de l'âme est une œuvre divine. Nous sommes incapables de changer quoi que ce soit. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard, ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal, dit le prophète Jérémie. Et David, dans sa prière, rappelez-vous, de repentance au psaume 51, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et un peu plus loin, il dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. » Donc, pour être pur, il faut que Dieu nous purifie. C'est ce qu'il dit ici. « Purifie-moi et je serai pur. » Accomplis cela en moi et je serai tel. Comme disait un prophète, il dit « Fais-moi revenir et je reviendrai. » Il faut que Dieu fasse pour que nous puissions en retour la moindre chose. Et donc le cœur pur ou l'âme purifiée est une création de Dieu. Et je reprends ce que nous avons lu en Ézéchiel, quand Dieu dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ». Et regardez comment Dieu parle, il dit « Je » à chaque fois. « Je répandrai, je vous purifierai de toutes vos souillures, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je ferai, dit Dieu. C'est moi qui accomplis ces choses en vous. » Et donc il faut, pour aimer sincèrement, une œuvre divine intérieure de purification accomplie par Dieu. lui-même. Deuxième point que je voudrais souligner ici, c'est que l'instrument de la purification de l'âme, c'est l'obéissance à la vérité. L'instrument de la purification de l'âme, c'est l'obéissance à la vérité. Voyez ce que l'apôtre Pierre dit. Ayant purifié vos âmes, comment ? En obéissant à la vérité. La vérité en question ici, bien sûr, c'est la vérité de la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Pierre avait déjà souligné l'importance de l'obéissance au verset 2 de ce même chapitre. Regardez au verset 2, 1 Pierre 1, verset 2, où il avait dit que les croyants sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Et puis, dans l'exhortation au verset 14, il dit « Comme des enfants obéissants, conformez-vous. » Et ici, il dit que vous avez purifié, votre âme a été purifiée, vous avez purifié, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Il ne s'agit pas ici de faire des efforts, mais il s'agit simplement de rappeler que c'est par l'obéissance à la vérité, la foi, c'est la même chose, hein. Obéissance et la foi ici sont similaires, et bien que les âmes sont purifiées. On ne peut pas faire quelconque effort pour cela. Quand tu te laverais, dit le prophète Jérémie, avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. On ne peut pas enlever l'iniquité en brossant avec du javel ou ce que vous voulez, ça ne sort pas. Ou en faisant tous les efforts, tous les pèlerinages, en marchant sur les genoux pendant longtemps, ça ne changera absolument rien. Il faut obéir par la foi à la vérité de Dieu. Et cette obéissance, je le dis, elle est synonyme à la foi. Pierre utilise l'obéissance dans ce sens, 1 Pierre 3, verset 1, regardez, 1 Pierre 3, verset 1, quand il dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, » donc on voit bien ici que le sens d'obéir, c'est le sens de croire à la parole, hein, « si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Il est question d'une femme qui a un époux inconverti. D'accord ? Donc, obéir, c'est croire ici. Et puis 1 Pierre 4, verset 17, regarde 1 Pierre 4, verset 17, où l'apôtre Pierre dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Donc, il est question de ne pas croire à l'évangile. Donc, obéir, c'est croire. Donc, quand Paul dit « Ayant purifié votre âme, en obéissant à la vérité », il a dit, c'est comme s'il disait « ayant purifié votre âme en croyant aussi à la vérité ». L'obéissance et la foi sont liées ici. 2 Thessaloniciens 2,13 dit « pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité ». Et par la foi en la vérité. Donc la foi et l'obéissance sont vraiment liées ici. Et Pierre souligne le fait que les âmes sont purifiées par obéissance à la parole de Dieu. Voilà comment est-ce que l'on parvient au salut, en obéissant à la parole de Dieu. Il n'y a pas de salut, pas de purification sans obéissance à la parole de Dieu révélé. Et ce n'est pas une obéissance simplement dans le passé, mais une obéissance continuelle ici. Une obéissance continuelle à la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on peut être purifié et lavé de nos péchés. Dans Éphésiens 5, versets 25 à 26, rappelez-vous, lorsque Jésus, l'apôtre Paul prend le parallèle entre le mariage et la relation entre Christ et l'Église, il dit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la lavant, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et donc c'est cette parole, la foi, l'obéissance à cette parole, à la parole de Dieu, qui purifie, qui transforme, qui sauve et qui purifie continuellement les cœurs. Et donc Pierre dit ici que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la parole de Dieu, en exerçant la foi dans la parole de Dieu. Et pourquoi donc ? Il dit pour avoir un amour fraternel sincère. Et donc je voudrais souligner ceci, c'est que l'amour fraternel sincère est l'inévitable fruit de la nouvelle vie. L'amour fraternel sincère est l'inévitable fruit de la nouvelle vie. Quelqu'un qui dit « Je suis au Seigneur » et qui n'a pas un amour fraternel sincère pour les frères dit quelque chose de contradictoire. Il dit quelque chose qui est contraire à l'Écriture ici. Parce que l'Écriture nous dit, ayant purifié votre âme, en obéissant à la vérité, pour avoir, ça c'est ce que produit vraiment le salut, hein, permet d'avoir un amour fraternel sincère pour les frères, hein, un amour fraternel sincère. Donc l'âme purifiée, elle est productive, elle produit l'amour pour les autres. L'amour sans hypocrisie, c'est ce dont il est question ici, c'est le fruit de la nouvelle vie. Et cet amour fraternel sincère est présenté ici comme le but presque de la purification. Purifiez vos âmes pour avoir un amour fraternel sincère. L'amour sincère est donc un test fiable de la nouvelle vie. L'Écriture atteste de cela abondamment. Il y a un lien très étroit entre la foi véritable et l'amour qu'il produit pour les autres. Pas le sentiment d'amour, mais l'amour volontaire qu'elle produit pour les autres. L'apôtre Paul, voulant montrer aux Corinthiens la réalité de sa foi, il dit ceci, il dit, nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint et par un amour sincère. Voilà comment il dit qu'il se montre recommandable à l'égard des frères. Beaucoup de choses. Et il termine par un amour sincère, véritable, sans hypocrisie pour tous les frères. Mais l'apôtre Jean est encore plus explicite. Il dit, sur le lien étroit entre le salut et l'amour, 1 Jean 3, versets 14 à 15, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ça, c'est le test. Il ne suffit pas de dire « je lis la Bible tous les jours ». Il ne suffit pas de dire « je prie ». Mais Jean dit « nous savons ». C'est-à-dire le témoignage que l'on a de la réalité de notre foi, c'est la mesure d'amour que l'on a pour les frères en la foi. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire beaucoup réfléchir. Et quand il dit « nous sommes passés de la mort à la vie », il parle du salut. Jésus emploie la même expression pour parler de la vie nouvelle. Par exemple, en Jean chapitre 5, 24, Jésus dit « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie ». Donc, passer de la mort à la vie, ça veut dire avoir la vie éternelle, être sauvé. Et l'apôtre Jean reprend cette expression et il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Et je continue, 1 Jean 3, 14, 15, il dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort, pas dans l'amour, Il demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui-même. Donc, on peut dire clairement dans ce passage que l'amour sincère pour les frères est un véritable test de la réalité du salut. Ailleurs, l'apôtre Jean dit que par ceci, on reconnaît les enfants du diable et les enfants de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, il est du diable. C'est tranchant, c'est binaire. Hein. Il n'y a pas de point milieu. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Et donc, il faut chercher la réalité de la relation avec Christ dans la nature de la relation que j'entretiens avec les frères et les sœurs en Christ. Et vous rappelez-vous de ce refrain que de 1 Corinthiens chapitre 13, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Je peux ajouter tout ce que je veux à côté, de la doctrine, de la connaissance, du parler en langue, parler les langues des anges, le sacrifice jusqu'à la mort de soi. Il dit, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. » Et je vous donne cette citation de Jean Calvin sur 1 Jean 3, 14. Il dit, « Personne n'aime sincèrement ses frères à moins qu'ils ne soient régénérés par l'Esprit de Dieu. » C'est pour cela que ça devient un test. Il faut être régénéré par l'Esprit de Dieu pour aimer. Jean conclut donc à juste titre que l'Esprit de Dieu qui est vie habite en tous ceux qui aiment les frères. Si j'aime mon frère, véritablement, comme l'Écriture le commande, alors cela atteste que j'ai l'Esprit de Dieu et que je suis véritablement un enfant de Dieu. Ainsi, l'amour demeure un test fiable de la réalité, de la foi et de la nouvelle vie. Mais l'amour doit, dit ici l'apôtre Pierre, doit pratiquement se manifester de manière extrémiste. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » L'apôtre Pierre ne se contente pas ici de dire que les âmes purifiées ont un amour sincère, mais il exhorte les âmes purifiées qui ont un amour sincère à aimer ardemment les uns les autres de tout leur cœur. À s'aimer ardemment les uns les autres de tout leur cœur. Et le terme qui est utilisé pour ardemment, c'est un terme qui vient du mot qui veut dire étirement. Quand on étire le muscle pour faire un mouvement, c'est pas extrême. Hein. Donc on tend jusqu'à la dernière limite. C'est ainsi qu'on doit être tendu dans l'amour les uns vers les autres. Le croyant donc est exhorté, si j'ose dire, à l'amour extrémiste. Il faut qu'il pousse jusqu'à l'extrême. Certains sont extrémistes dans la haine, et on peut le voir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être extrémistes dans l'amour pour les autres et dans le bien qu'on peut leur faire. La chaleur, la ferveur, la sincérité doivent caractériser les manifestations d'amour que les croyants expriment les uns envers les autres. Il appartient à chacun de nous, chacun qui se dit enfant de Dieu, de voir comment il peut mettre ces choses en pratique. Mais ce que Pierre dit ici, c'est que ceux qui sont régénérés, ceux qui ont une âme purifiée, eh bien, c'est pour pouvoir aimer d'un amour fraternel, sincère. Et ils doivent se soumettre par obéissance au commandement de Dieu qui est d'aimer ardemment les uns les autres de tout leur cœur. Le chrétien, c'est celui qui obéit à la loi de Dieu. Et c'est ainsi que son cœur est purifié. Il y a une obéissance initiale et une obéissance continuelle qui continue à le purifier. Chaque fois qu'il voit le commandement de Dieu, il obéit et son cœur est purifié. Et ici, en l'occurrence, ce que l'apôtre Pierre commande, c'est vraiment un amour fraternel, sincère pour les autres. Je voudrais conclure en disant ceci, chers frères et sœurs, que on voit que la vérité de l'Évangile est destinée à être reçue et que la prédication de l'Évangile appelle à l'obéissance à la vérité. La vérité de l'Évangile est destinée à être reçue. Pierre dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. La vérité est destinée à pénétrer l'âme du pécheur pour la purifier. Et c'est la même pensée qu'on a, on a dit tout à l'heure, en 1 Pierre 1, verset 2. Et ce n'est pas la même chose pour toutes les vérités dans le monde. La vérité mathématique, la vérité scientifique, la vérité médicale. Il y a des choses qui sont des vérités. Elles n'ont pas vocation à être obéies, si j'ose dire. Vous n'êtes pas obligé de prendre un médicament si vous ne voulez pas. On va bientôt nous obliger à prendre un vaccin, mais bon. Même si c'est vrai que telle chose peut fabriquer telle chose, je ne sais pas, mais on n'est pas forcément obligé de se soumettre. Mais quand il est question de la vérité biblique, elle impose toujours, elle exige toujours, sans exception, qu'on s'y soumette et qu'on obéisse. Parce que c'est la vérité de Dieu. Et si on ne se soumet pas à la vérité de Dieu, c'est qu'on dit que Dieu est menteur. C'est ce que l'Écriture dit. C'est pas moi qui le dis. Regardez 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Et au verset 10. Il dit, celui qui croit au Fils. On est d'accord que la foi, croire, obéir, c'est des mots qu'on met de la même catégorie. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Laissez-moi vous dire ceci. Prenons n'importe quel commandement que Dieu nous donne dans sa parole. Ce que ce passage nous dit, c'est que quand nous ne nous soumettons pas au commandement de Dieu pour y obéir, c'est comme si nous disons « Dieu est menteur ». Il dit « Celui qui croit au Fils a la vie, je ne crois pas au Fils ». Je dis que Dieu est menteur. C'est ça la substance même du péché, c'est de ne pas obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque Satan a tenté Adam et Ève? Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit, non. Vous ne mourrez pas. Ça veut dire quoi? Dieu a dit, vous mourrez. Lui, il dit quoi? Vous ne mourrez pas. Il est en train de dire quoi en substance? Que Dieu est menteur. Et c'est lui le menteur. C'est lui le père du mensonge. Il dit que Dieu est menteur. Et lorsqu'on adhère à cela, eh bien, on dit avec, eh bien oui, Dieu est menteur. C'est terrible de penser comme ça. Et c'est valable pour n'importe quel commandement de Dieu. Pas seulement un commandement qui dit « Venez à moi », mais quand il nous demande de ne pas mentir ou de ne pas voler ou de ne pas nous associer avec un inconverti ou de ne pas faire une chose ou une autre, et bien quand je ne le fais pas, quand je désobéis à cela, je dis que Dieu est menteur. Et donc, la vérité de Dieu, elle est destinée à être obéie. On doit absolument s'y soumettre. On doit absolument s'y soumettre. L'Évangile est la volonté de Dieu qui a vocation, je l'écris comme ça, à être reçue et obéie parce que c'est la parole de Dieu et parce que Dieu nous le commande. Et l'Écriture ne connaît que deux catégories de personnes, uniquement deux. Alors on peut dire qu'il y a plusieurs catégories de personnes ici, il y a des blancs, des jaunes, des noirs qui viennent de pays différents, de contrées différentes. Mais pour l'Évangile, pour l'Écriture, il n'y a que deux catégories de personnes, celles qui obéissent et celles qui n'obéissent pas. Et c'est là que se fait la différence pour Dieu. Je vais vous lire ce passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 13. Il est dit, l'apparition, écoutez, l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru ou obéi à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, ça c'est l'autre catégorie, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi ou l'obéissance en la vérité. Vous voyez, ce passage établit clairement la différence entre ceux qui n'obéissent pas à la vérité et ceux qui obéissent à la vérité. Mais j'aimerais juste quelques versets avant, j'ai lu à partir du verset 9, mais je vais lire juste quelques versets avant 2 Thessaloniciens chapitre 1. Et à partir du verset 6, il dit « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus, écoutez bien ceci, apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, obéi, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Voilà ce qu'il dit concernant l'obéissance à la vérité. La vérité de la parole de Dieu, elle est faite pour qu'on s'y soumette. Pas pour qu'on puisse l'admirer, pas pour qu'on puisse l'accrocher juste sur les murs de notre maison. Elle est faite pour qu'on y obéisse. Sans quoi, on risque le jugement de Dieu, c'est ce que nous venons de lire ici. Il dit que Jésus va venir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas. Qui n'obéissent pas. Et la particularité d'un enfant de Dieu, c'est qu'il a l'âme purifiée en obéissant à la parole de Dieu. Et il a un amour fraternel, sincère pour les autres. Si je n'obéis pas à la parole de Dieu continuellement et que volontairement je désobéis parce que ça me plaît de désobéir, je ne peux pas avoir l'assurance que je suis un enfant de Dieu. Parce que la particularité d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir l'âme purifiée en obéissant à la vérité, à toute la vérité. Ça, c'est le premier point que je voudrais souligner. Le second est celui-ci, c'est que le peuple de Dieu doit faire l'objet de mon amour. Les frères et sœurs en Christ doivent être l'objet de mon amour. Je dois aimer leur compagnie, je dois désirer leur compagnie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que quand je parle, parce que j'ai un petit différent d'un frère ou d'une sœur, je dis celui-ci ou celle-là, cet homme-là? Ou est-ce que je dis mon frère, bien-aimé dans le Seigneur? C'est ce que ce passage nous enseigne à faire. Il dit, puisque vous avez l'âme purifiée pour aimer d'un amour fraternel sincère, alors aimez-vous les uns les autres ardemment de tout votre cœur. Il n'a pas dit aimez ceux qui sont gentils avec vous. On aime les frères et sœurs ardemment. Et on doit prier même pour que Dieu puisse nous montrer comment on peut manifester cet amour les uns pour les autres. Cela commence bien sûr avec ceux qui nous sont proches, tout proches de nous.
nos enfants, nos femmes, nos maris qui sont avec nous, et puis tous les frères et sœurs, bien sûr, dans l'Assemblée, et les autres croyants que je peux rencontrer, puisqu'on l'a dit ici, il est question de l'amour fraternel entre les croyants. Petits enfants, dit l'apôtre Jean, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Comment je peux pratiquement mettre cet amour en action? C'est la question que l'on doit se poser. Je dois aimer la communion des frères et sœurs. Je dois faire tout mon possible pour partager leur présence. Si ma pensée, c'est que je me suffis avec Dieu tout seul, ce n'est pas une bonne pensée, ce n'est pas une pensée biblique. En tout cas, elle est contraire à ce que nous venons de lire ici dans l'épître de Pierre. Et puis, dernier point, l'impureté dans mon âme, et pas autre chose, est la cause du manque d'amour que je peux avoir pour les autres. Au lieu d'accuser les autres, donc je dois revenir au Seigneur. C'est l'impureté dans mon âme qui est la cause du manque d'amour. C'est pas ce que l'autre a fait, jamais. Puisque l'apôtre Pierre dit, ayant purifié votre âme pour un amour fraternel sincère. Si l'âme est défaillante dans la pureté qu'elle doit avoir, l'amour sera aussi défaillant. Et donc, quand ça défaille ici, il ne faut pas chercher dans la circonstance ou dans l'autre la raison. Il faut chercher dans le propre état de mon âme. J'ai besoin qu'elle soit purifiée. J'ai besoin de venir au Seigneur. J'ai besoin de croire à la vérité. J'ai besoin de me soumettre à cette vérité. C'est cela qu'il faut chercher. Donc, l'impureté de mon âme, c'est, et pas autre chose, est la cause du manque d'amour. Alors, au lieu d'accuser les autres, nous devons revenir au Seigneur dans la repentance et dans l'obéissance à sa parole. Que le Seigneur nous aide et nous conduise. Ayant purifié vos âmes pour obtenir, pour avoir un amour, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour sincère, fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Tel est le commandement pour nous, enfants de Dieu, ce matin. Et si vous ne connaissez pas Dieu, le commandement est que vous devez obéir à la parole de Dieu pour avoir des cœurs purifiés. Parce qu'on a dit, la parole de Dieu est destinée à l'obéissance de ceux qui l'entendent et pas autre chose. Et donc vous pouvez venir au Seigneur et lui demander de transformer votre cœur, de le changer, que vous voulez vous y soumettre. Et la Bible dit que si nous venons à lui, eh bien, qu'il ne nous rejette pas. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, c'est parce que Dieu veut que vous vous soumettiez à cette parole. Soumettez-vous donc à lui et vous serez sauvés. Prions. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ta parole qui est la vérité. Et nous te remercions pour ton œuvre que tu accomplis dans nos vies. Merci de nous avoir purifiés, de nous appeler à la purification, d'avoir disposé nos cœurs afin que nous croyions, que nous venions à toi. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides à obéir chaque jour à ce que tu nous révèles dans ta parole. Donne-nous des cœurs, non des cœurs rebelles à la vérité, mais des cœurs qui se soumettent à ta vérité, à toute ta vérité, à tous tes commandements. Seigneur, nous savons que ta loi, c'est ta volonté pour nous et que tu as donné tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Mais nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité. Nous avons besoin que tu agisses en nous pleinement par ton esprit. Merci pour l'esprit que tu fais demeurer en nous et qui nous conduit. Et je te prie pour que tu attire les cœurs de ceux qui ne sont pas à toi pour qu'ils s'obéissent à ta vérité. Que ton nom soit béni. Amen.